France Inter. Ali Badou, Marion Lourd. Le 6-9.
6h, le journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour à tous. Un climat toujours plus tendu au guichet de France Travail. Les signalements d'incivilité en nette hausse l'an dernier. Les syndicats y voient entre autres une conséquence des réformes et des polémiques autour des chômeurs. Vous les entendrez. À Gaza, l'espoir d'une intensification de l'aide humanitaire grâce à cette jetée que les États-Unis commencent à construire sur la côte de l'enclave. Précision à suivre. Dans ce journal aussi, la colère du mouvement MeToo aux États-Unis après l'annulation de l'une des condamnations d'Harvey Weinstein et la mort du réalisateur Laurent Cantet, l'hommage ce matin d'un ami de toujours dans ses Deux-Sèvres natales.
France Inter.
C'est un document interne dont tous les indicateurs passent au rouge.
Chez France Travail, l'ancien pôle emploi, il n'y a jamais eu autant de signalements d'agressions, d'incivilités et plus globalement de tensions dans les agences. Plus 12% l'an dernier, selon ce rapport révélé par Politis et que vous avez pu également consulter, Willy Moreau.
L'année dernière, 16 000 fiches de signalement ont été rédigées à travers les 900 agences du pays.
Ça peut être des insultes.
Vincent Lalouette, membre du bureau national du syndicat SNUFSU.
On a aussi la réception au courrier de l'agence d'une enveloppe contenant une balle avec un mot en disant « je vous tuerai tous ». Et puis le dernier niveau, c'est l'agression physique.
143 agressions physiques, 6900 agressions verbales signalées l'année dernière, ce sont des records depuis 2021. France Travail encourage ses agents à signaler tout incident depuis l'assassinat d'une conseillère à Valence. C'est une des explications assez hausse selon Laurent Méric, mais le président du syndicat SNAP en avance également une autre.
Les tensions qui existent notamment par rapport au marché du travail, à la pression qui est mise sur les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas suffisamment actifs dans leurs recherches et puis les inquiétudes aussi par rapport aux réformes de l'assurance chômage passées et annoncées font qu'effectivement les conditions d'accueil de nos usagers les amènent à être un peu plus agressifs verbalement et physiquement.
Des demandeurs d'emploi qui menacent de plus en plus de se suicider, plus de 3000 signalements l'année dernière. Le nombre a été multiplié par 3 depuis 2019.
Willy Moreau de France Info pour ce document de France Travail qui fuit au lendemain des derniers chiffres du chômage dévoilés par l'organisme. Il s'est stabilisé au premier trimestre à moins 0,1% après 6 mois de hausse. Beaucoup plus préoccupant pour l'exécutif, les chiffres du déficit et de la dette avant le verdict ce soir de deux agences de notation. Première réévaluation de la note souveraine française depuis les mauvaises nouvelles budgétaires du début d'année. Alors Fitch et Moody's vont-elles ou non abaisser la note souveraine de la France? Une dégradation pourrait à terme, sans que ce soit forcément automatique, renchérir le coût des futurs emprunts de l'État. D'autant que la notation la plus attendue, c'est dans un mois, celle de S&P.
Et il est maintenant 6h03. Le bâtiment historique de Sciences Po Paris était occupé cette nuit.
Oui, par une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens, rue Saint-Guillaume dans la capitale, en écho aux mobilisations sur les campus américains. La veille déjà, un autre site de l'école avait été investi dans la soirée avant que la police ne déloge les occupants. Au Proche-Orient, comme il l'avait promis, les États-Unis viennent de commencer la construction d'une jetée à Gaza pour accroître l'arrivée d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne assiégée. Alors Étienne Monin, comment ça va marcher? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas une solution miracle.
Ce rouage supplémentaire dans l'aide humanitaire a été annoncé il y a un mois et demi par le président américain, au moment où la situation est déjà critique avec les premières victimes de la faim dans le nord de l'enclave.
Tonight, I'm directing the US military to lead an emergency mission.
Le président américain annonce la construction d'une plateforme flottante sur laquelle de gros navires pourront accoster pour confier leur cargaison à de plus petits bateaux qui devraient décharger cette aide sur une jetée construite depuis la côte gazaoui. Les bateaux militaires qui sont actuellement à l'œuvre sont partis de Virginie. Dans un reportage depuis une base américaine, la BBC explique que l'ambition est de fournir 2 millions de repas par jour. La jetée devrait être opérationnelle début mai. L'Europe souhaite participer à un corridor maritime humanitaire. Chypre fait figure de plaque tournante idéale, mais ce port ne règle pas le problème de la circulation et de la sécurité dans l'enclave, où les camions entrent toujours en nombre insuffisant.
Aux États-Unis, avalanche de réactions indignées au sein du mouvement MeToo après l'annulation de l'une des condamnations d'Harvey Weinstein pour viol à New York. L'ancien mania d'Hollywood reste en prison puisqu'il purge une autre peine prononcée en Californie. Mais la cour d'appel de New York estime que son premier procès n'était pas équitable. Depuis, les féministes américaines s'étranglent, Loïc Laurie.
C'est une trahison institutionnelle, affirme Ashley Judd à propos de l'annulation de la condamnation d'Harvey d'Harvey Weinstein, l'actrice avait été la toute première à dénoncer auprès du New York Times le comportement de l'ex-producteur. Voilà ce que c'est que d'être une femme en Amérique, vivre avec des hommes qui pensent avoir des droits sur nos corps. Dépit également pour Tarana Burke, la fondatrice du mouvement MeToo, plus de 10 ans avant le procès Weinstein. Nous sommes dévastés pour les survivantes qui avaient trouvé du réconfort, une forme de catharsis dans cette condamnation. Beaucoup d'entre nous pensaient que nous étions sur la voie d'une nouvelle Amérique, mais ce moment nous fait sentir que nous avions tort. L'avocat de l'intéressé, Arthur Aidala, en revanche, se félicite. Harvey Weinstein n'a pas eu le droit à un procès équitable. Personne n'est au-dessus de la loi, mais personne n'est en dessous. On ne peut pas ignorer un siècle de précédents légaux juste parce que quelqu'un est impopulaire. Son client reste toutefois en prison, mais doit être transféré en Californie où il a été condamné pour viol, en attendant le résultat d'un appel et un nouveau procès éventuellement à Manhattan.
Loïc Loury à New York. Joe Biden prolongera-t-il son voyage en France après sa participation au 80e anniversaire du débarquement le 6 juin? C'est en tout cas l'intention de l'Élysée qui va lui proposer de rester au moins 2 jours de plus. Information du Parisien que le service politique d'Inter a pu confirmer.
Ils ont pris le nom de leur autre parent ou accolé un deuxième nom à leur patronyme.
Près de 150 000 Françaises et Français ont changé de nom de famille depuis que la loi le facilite, c'est-à-dire depuis l'été 2022. Alors c'est bien plus qu'auparavant. L'INSEE vient de tirer ce premier bilan de cette loi Vignal qui permet donc de faire cette demande en mairie via un simple formulaire sans avoir à se justifier. La majorité des personnes concernées, 57%, sont des femmes. L'oiseau de la discorde dans les Vosges, le projet de réintroduction du grand tétras va-t-il être suspendu par la justice? Le tribunal administratif se prononce aujourd'hui sur le recours de 5 associations environnementales. Elles s'opposent à ce qu'on relâche bientôt dans le massif vosgien des oiseaux en provenance de Norvège. Les explications d'Isabelle Baudrier.
4 grands tétras capturés en début de semaine en Norvège. 3 femelles et 1 mâle, déjà tout proche des Vosges. La préfecture prévoit de lâcher 10 d'individus dans les jours qui viennent. 200 oiseaux au total réintroduits en 5 ans dans le massif. Le projet ne peut pas réussir, pas dans les conditions actuelles, selon Dominique Imbert, président de l'association SOS Massif des Vosges.
C'est le parc qui a une mission, entre autres, de protection de la nature et qui, en réalité, pratique le développement des industries de loisirs, des activités sportives de loisirs sur le parc, des activités motorisées même dans les forêts vosgiennes, etc. Nous ne sommes pas opposés, on l'a dit, à la réintroduction du tétras, mais il faut qu'elle se fasse dans des conditions qui assurent de la pérennité de cette réintroduction et de la survie de cet animal. Ça ne servira à rien de dépenser beaucoup d'argent pour être certain qu'il, après avoir réintroduit X animaux, ils disparaissent rapidement.
Les grands tétras norvégiens, sur le point d'être relâchés dans le massif, ne le seront finalement pas avant la décision du tribunal administratif. L'engagement a été pris par le parc naturel régional des Ballons des Vosges à l'issue de l'audience.
Et contacté par France Bleu Sud-Lorraine, ni la préfecture ni le parc naturel n'ont souhaité s'exprimer avant la décision du tribunal.
Le monde du cinéma salue un réalisateur engagé, spécialiste des sujets sociétaux.
Laurent Cantet nous a quitté hier à l'âge de 63 ans, après une carrière marquée par 9 films et 10e en projet, tous marqués par sa fibre sociale. Parmi eux, une Palme d'Or à Cannes pour Entre les Murs en 2008. Il restait aussi très fidèle aux Deux-Sèvres, son département d'origine, et au cinéma du village de Chef-Boutonne que dirigeait l'un de ses amis, Yves Bonneau.
C'était un grand garçon, très beau, très timide, très modeste. Et je dis pas ça parce qu'il est mort, parce que ça a toujours été comme ça. Il ramenait pas sa fraise. Nous, on chantait tout petit à cause de lui. Mais lui, bon, Laurent, c'était Laurent. Il a fait un film, puis il a fait 2 films, et puis il a la Palme d'Or. Et il venait toujours, à chaque fois qu'il sortait un film, on n'avait pas besoin de demander, Laurent, est-ce que tu veux venir, etc. Il me proposait toujours, toujours, tout le temps. Ouais. Et c'était des moments extraordinaires, quoi. Je voudrais lui dire. Et qu'il a eu tort de partir si tôt. C'est pas possible de partir à cet âge-là. J'aurais bien aimé encore discuter avec lui. C'était un type extraordinaire.
Le témoignage d'Yves Bonneau dans les Deux-Sèvres. Et puis un petit mot de handball. Et le PSG mal embarqué en Ligue des Champions après sa lourde défaite à domicile hier soir. 30-22 face à Barcelone en quart de finale aller. Les Parisiens sont donc condamnés à l'exploit la semaine prochaine en terre catalane.
Merci Alexis Morel. Merci à vous d'écouter Inter. Il est 6h10, l'Esprit Sport. l'Esprit Sport avec Cédric Guillot. Bonjour.
Bonjour.
À 91 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture des JO, on continue nos portraits de sportives et de sportifs dans l'Esprit Sport olympique. Et on va parler de tir ce matin avec une nouvelle Française qui vient de se qualifier.
Et qui s'appelle Mélanie Cousy. Elle vient effectivement de décrocher son billet pour cet été lors du tournoi de qualification olympique de tir qui se déroule cette semaine à Doha. Elle a en fait arraché une place en finale et ça s'est avéré déterminant pour obtenir ce fameux ticket olympique.
Et le tir pour elle, c'est une histoire de famille ?
C'est effectivement l'univers de Mélanie Cousy avec un grand-père et un père garde-chasse. Alors elle réalise ses premiers plateaux, on appelle ça comme ça, en tir à 12 ans. Elle débute en fosse olympique à 16 ans. Alors la fosse olympique, c'est une discipline qui est plus connue sous le nom anglais de ball trap. C'est un tir, vous savez, avec le fusil sur l'épaule. On tire sur des plateaux fuyants qui sont lancés à plus de 100 km/h. Mélanie Cousy qui a évoqué ce sport et ses particularités sur le site de la Fédération Française de Tir.
Il y a 5 postes, 3 trajectoires. Donc on va avoir 2 trajectoires à gauche, 1 central et 2 trajectoires à droite par poste. Ce qui nous fait 25 plateaux à la fin.
Ah.
Quand je monte mes canons, je m'incline légèrement vers l'avant. Et quand je suis prête, j'appelle.
Ah.
Je reste en apnée. Pour être optimale dans ma vision.
Voilà, alors ça sera la deuxième Olympiade de Mélanie Cousy, qui a 34 ans aujourd'hui, qui a déjà participé aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et juste derrière ces Jeux, eh bien, elle s'était engagée en école de police. Elle est devenue gardienne de la paix dans le civil. Elle souhaitait être policière depuis toute petite.
Merci, et donc elle entrera en lice le mardi 30 juillet. C'était l'Esprit Sport de Cédric Guillou.
À suivre, si tu ne vas pas au bureau de poste, le bureau de poste viendra à toi. C'est expérimenté en zone rurale. On verra ça dans le grand angle. Et puis, prêt étudiant, mode d'emploi, ça sera la chronique Esprit Pratique.